respect de leur comportement et bien appliquer pour une monde qui change.
Ce qui va se passer en cas où les gens
de moi une observatrice du genre humain.
On va maintenant avoir les cratères à la surface des astéroïdes.
On travaille sur des données qui sont à des millions de kilomètres. Et là, ils sont dans mon ordinateur.
Acteur de science.
Acteur de science.
Acteur de science.
Dans les coulisses de l'OSU.
Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode à la rencontre d'un acteur de science. Je suis Savinien et je vous emmène à la rencontre de Guylaine Lagache qui a réalisé son rêve d'enfant de devenir une exploratrice au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Allons-y. Bonjour Guylaine.
Bonjour.
Je vais commencer avec ma première question. En quoi votre métier fait de vous une exploratrice au laboratoire d'astrophysique de Marseille ?
Exploratrice, alors il y aurait deux sens du terme. Déjà, exploratrice scientifique parce que je travaille sur des sujets de cosmologie aux confins de l'univers. On essaie de comprendre en fait l'origine de l'univers, le Big Bang, qu'est-ce qui s'est passé depuis. Donc j'ai travaillé sur le rayonnement fossile, qui est la première lumière que l'on peut voir, qui a été émise 380 000 ans après le Big Bang. Sachant qu'aujourd'hui on a 13,8 milliards d'années, donc cette première lumière vient vraiment de l'univers tout jeune, quand il était très enfant, et on a pu observer de façon très précise ce rayonnement fossile avec notamment le satellite Planck, qui a été un gros succès qu'on avait lancé en 2009. Suite à ça, plus récemment, toujours exploratrice des confins de l'univers, en partant à la recherche des premières galaxies qui se forment. Donc là, on est un petit peu plus loin après le Big Bang, 200 millions d'années. Mais on est encore loin des 13,8 milliards d'années d'aujourd'hui. Et cette période de formation des premières galaxies est en fait un défi aujourd'hui, parce que ces premières galaxies sont très faibles, très petites, on a du mal à les trouver, et c'est elles qui conditionnent en fait l'évolution après des structures dans l'univers pour arriver aux galaxies comme la nôtre, donc la Voie lactée. Et exploratrice aussi, donc dans un sens plus conventionnel du terme, si je peux dire, puisqu'on travaille actuellement sur une expérience que l'on va monter sur un télescope qui est au Chili. Donc le télescope s'appelle APEX. C'est un télescope qui se situe dans le désert d'Atacama, donc un des déserts les plus secs au monde. C'est des cailloux et des cailloux. Et le télescope est à 5100 mètres d'altitude. Donc quand on va travailler là-bas, là c'est vraiment l'exploration, parce qu'il y a tout un tas de précautions à prendre, puisqu'on travaille en altitude. C'est juste magnifique, quoi. C'est un endroit absolument exceptionnel. Au milieu du désert, il n'y a pas un bruit.
Quand je vous avais contacté pour faire cette interview, vous m'avez dit « ça tombe bien parce que j'ai toujours rêvé d'être exploratrice ». Est-ce que ça fait partie de votre choix de métier ?
Oui, moi j'ai toujours voulu faire de l'exploration comme ça. Donc c'est vrai que d'aussi loin que je me souvienne, j'avais toujours voulu être astronome. Donc toujours eu le nez en l'air en fait, à regarder les étoiles. J'avais acheté un premier magazine spécialisé en astronomie qui s'appelle Ciel et Espace à l'âge de 12 ans. Alors je me souviens qu'à l'époque j'avais rien compris, mais ça me fascinait complètement. Et puis j'ai grandi avec cette idée. Donc j'ai fait un bac S, après je suis allée à l'université. Et puis à la fin de mes études, j'ai un petit peu hésité entre la partie plus par exemple vulcanologie pour aller crapahuter les montagnes ou la partie plus astro. Et puis, je suis restée sur ma première idée en astro. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec notamment l'installation de cet instrument-là dans un milieu un peu extrême, on repart un peu sur l'exploration des montagnes, etc. Donc, les deux se rejoignent et c'est une super histoire.
J'imagine que vous avez une mission peut-être plus importante que d'autres en ce moment. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
Oui, donc je travaille sur ce projet qui s'appelle Concerto, qui est ce fameux instrument qu'on va installer sur le télescope. Donc on est actuellement en train de designer l'instrument, de le construire, en construire des bouts qu'on assemblera en laboratoire. Donc cette partie-là est faite à Grenoble. Et une fois qu'on aura construit cet instrument et qu'on l'aura caractérisé en laboratoire, on va le mettre en caisse, on va l'envoyer par bateau ou par avion au Chili. Puis on ira le monter donc, sur ce fameux télescope APEX. Donc ça, c'est prévu en janvier 2021. Une fois qu'on l'aura monté là-bas, alors dans une cabine qui est toute petite, ça va être assez compliqué, surtout à 5100 mètres d'altitude. On caractérisera de nouveau l'instrument, en faisant des premières observations. Et puis après, on commencera des relevés, en fait, dans le but de trouver les premières galaxies 200 millions d'années après le Big Bang, à peu près.
Quels sont les enjeux, les enjeux scientifiques, j'entends, de l'étude de ces premières galaxies ?
En fait, on cherche à comprendre un peu d'où on vient, quelque part, mais bon, au quotidien, c'est pas ça qu'on pense. Hein. On pense vraiment à comprendre comment, à partir des premières fluctuations de densité de matière qui ont eu lieu au moment du Big Bang et qu'on observe dans ce rayonnement fossile, donc comment à partir de ces petites fluctuations, on a réussi à créer des galaxies qui sont des objets vraiment macroscopiques, hein, énormes, et comment toute cette chaîne d'évolution s'est faite. Et aujourd'hui, on a vraiment un trou dans cette chaîne qui est d'aller trouver les premiers objets qui se sont formés. On voit des objets jusqu'à aujourd'hui, je dirais un milliard d'années après le Big Bang, et on essaye d'aller de plus en plus loin parce que ces objets sont déjà évolués. Ça veut dire qu'il y a des objets encore plus primitifs à aller trouver encore plus loin. Et pour ça, il faut des instruments de plus en plus complexes, de plus en plus sensibles, qui voient de plus en plus loin, quoi.
Donc c'est un travail qui est relativement complet, vous avez pas mal de tâches et de fonctions différentes. Quelle est, dans ce travail-là, la partie de votre travail que vous aimez particulièrement réaliser ?
Moi, ce que je préfère, c'est quand on travaille au début d'un projet ou sur une idée, qu'on se met à plusieurs dans un couloir, que pour finir, on finit dans un bureau et on se met sur le tableau blanc. Comme le tableau là que j'ai sous les yeux, vous ne pouvez pas voir d'ailleurs, où on commence à réfléchir à comment mettre en œuvre une idée ou un projet. Et donc c'est ce que j'appellerais du brainstorming. Et ça, c'est vraiment super excitant, quoi. On est tous ensemble, ça fuse de partout, on essaie de trouver des idées, on les confronte, on les oppose. Et puis pour finir, on se met d'accord sur quelque chose à faire ou à tester. Et puis... voilà, après, donc faut mettre en œuvre après ces idées. Et dans la mise en œuvre, après, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'en fait, j'ai remarqué qu'on travaille beaucoup par paliers. C'est-à-dire qu'on va être quelques temps, quelques semaines sur une idée, alors si c'est une idée, par exemple, qu'on va devoir faire un code pour la tester ou construire une petite manip. Et puis, on va donc être dans cette phase de construction, d'apprentissage, de voir comment on pose le problème, etc. Et puis, d'un seul coup, pouf, on va faire une petite avancée, quoi. Et donc, ça marche par palier parce que on va galérer, genre pendant quelques semaines. Puis, d'un seul coup, on va trouver et hop, on va voir passer une étape. Et hop, quelques semaines après, une étape. Et donc, cette partie-là, quand on commence à passer ces étapes-là, c'est assez jouissif, en fait. C'est vraiment super parce que, voilà, on a l'impression d'avoir réalisé quelque chose, d'avoir compris quelque chose. Et puis, après, on repart pour une période plus sombre, si je dirais, où là on se repose plein de questions, on refait du code, etc. Et hop, après on refait un progrès, donc c'est vraiment assez super, quoi.
J'imagine que dans votre métier, on se pose quand même pas mal de questions. Est-ce que parmi toutes ces questions, il y en a une qui est sans réponse ?
Oui, alors des questions sans réponse scientifiques, il y en a plein, et donc je ne pourrais pas choisir. Moi, il y a toujours une question sans réponse qui me taraude, c'est « vais-je être à la hauteur ?» Toujours à la hauteur. Parce qu'en fait, quand on travaille, dans notre métier, en fait, on avance, et à chaque fois qu'on se pose des nouvelles questions, quelles qu'elles soient, il faut un peu se remettre en cause, parce qu'on n'a pas forcément l'expertise pour y répondre, donc il y a une période d'apprentissage, on n'a pas forcément toutes les compétences, et aujourd'hui, les expériences sont tellement, tellement compliquées, de plus en plus grosses, qu'en fait, il faut jouer sur la complémentarité des gens. C'est-à-dire que chaque personne va amener sa compétence, son expertise. Et puis, en mettant toutes les expertises ensemble, on arrive à faire, à la fin, une expérience qui est juste magnifique. Mais ça, c'est plus l'œuvre d'un individu. Et donc, quand on travaille, enfin, moi, je me pose toujours cette question, c'est est-ce que je vais être à la hauteur ? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles disciplines qui arrivent, comme par exemple, en astronomie, on est confronté à des volumes de données, donc il y a l'histoire de Big Data. Et le big data, c'est une façon de voir, enfin, c'est une façon de coder, c'est de l'informatique profonde. Et moi, par exemple, je n'ai pas cette expertise. Et je sais que pour mon projet, on est dans cette ère big data et je me demande, mais comment on va gérer ça ? Alors, on va aller chercher des gens qui savent, mais c'est toujours un problème d'essayer de tout mettre ensemble pour réussir à faire ce qu'on veut. Et puis, il y a aussi le fait que plus on vieillit, plus on avance dans la recherche, moins on a de temps aussi pour se former aux nouvelles techniques. Moi, on a de temps pour... on va pas pouvoir prendre 3 mois, par exemple, pour se plonger dans un bouquin, pour vraiment comprendre profondément un nouveau problème, quoi. Donc, on va être basé sur des acquis, les acquis, des fois, bah, ils sont peut-être fragiles ou ils ne sont pas ceux qu'il faut. Et donc, c'est toujours ce problème de remise en question permanente qui n'est pas forcément facile à vivre, des fois, pour tout le monde. Quoi.
Si vous deviez qualifier votre travail en un mot, qu'est-ce que ce serait ?
Alors, ce serait la créativance, la persévérance dans la créativité.
Voilà pour l'interview de Guylaine Lagache. Merci Guylaine, merci à tous pour votre écoute et à la prochaine pour un nouveau podcast.